Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le bal des célibataires, de Pierre Bourdieu. Le célibat est un des drames les plus cruels que la société paysanne ait connu au cours des dernières décennies. Il a contribué au dépérissement et à la disparition des petites entreprises agricoles qui étaient au fondement de l'ordre rural d'autrefois. Comment expliquer le célibat des aînés dans une société connue pour son attachement exceptionnel aux droits d'aînesse ? Pierre Bourdieu a dit « Le petit bal que j'avais observé était une réalisation concrète du marché des biens symboliques qui, en s'unifiant à l'échelle nationale, a voué les paysans, leurs manières, leurs tenues vestimentaires et leur corps même à une brusque dévaluation. » Pierre Bourdieu est né le 1er août 1930 à Danguin, dans les Pyrénées-Atlantiques, un petit village du Béarn. Son père est issu de la petite paysannerie béarnaise, d'abord cultivateur journalier, puis facteur de la commune, sans quitter son milieu rural. Sa mère a une origine sociale proche, quoique légèrement supérieure, puisqu'elle est issue d'une lignée de propriétaires de la Seub. Interne au lycée Louis Barthou de Pau, où la lecture et le rugby seront ses refuges, Pierre Bourdieu est un excellent élève. Il est reçu à l'école normale supérieure en 1951. Reçu septième à l'agrégation de philosophie en 1954, il s'inscrit auprès de Georges Canguilhem pour une thèse de philosophie sur les structures temporelles de la vie affective, qu'il abandonne en 1957 afin de se consacrer à des études ethnologiques de terrain. Georges Canguilhem place ainsi Pierre Bourdieu à proximité de Paris, comme professeur de philosophie, au lycée Théodore de Banville de Moulins, pour l'année scolaire 1954-1955. Mais Pierre Bourdieu doit remplir ses obligations militaires. Après avoir refusé de suivre la formation d'élève officier de réserve, il est affecté au service psychologique des armées à Versailles. Il est rapidement embarqué avec des jeunes appelés en Algérie dans le cadre de la pacification. Il y a accompli l'essentiel du service militaire, qui dure 2 ans. Il fait d'abord partie d'une petite section qui garde un dépôt d'essence. Grâce à l'intervention de sa famille, il est affecté au gouvernement général d'Alger, dans les services administratifs de la résidence générale, sous les ordres de Robert Lacoste. De 1958 à 1960, il poursuit ses études sur l'Algérie, en accomplissant des études de terrain, et il prend un poste d'assistant à la faculté des lettres d'Alger. Ses premières enquêtes le mènent dans les régions de Kabylie et de Kolio, bastions nationalistes où la guerre fait rage. En 1960, Pierre Bourdieu regagne Paris pour devenir l'assistant de Raymond Aron à la faculté de lettres de l'Université de Paris. Raymond Aron fait également de lui le secrétaire du Centre de sociologie européenne, institution de recherche qu'il a fondée en 1959 à partir de reliquats de structures d'après-guerre et avec l'aide financière de la Fondation Ford. Entre 1961 et 1964, Pierre Bourdieu est maître de conférences à l'Université de Lille. En 1962, il épouse Marie-Claire Brizard, historienne et ingénieure d'études au CNRS. Il est le père de 3 enfants. Tous 3 normaliens. En 1964, Pierre Bourdieu rejoint la 6e section de l'École pratique des hautes études, qui devient en 1975 l'École des hautes études en sciences sociales. La même année, sa collaboration, commencée plus tôt avec Jean-Claude Passeron, aboutit à la publication de l'ouvrage « Les héritiers », qui rencontre un vif succès et contribue à faire de lui un sociologue en vue. À partir de 1965, avec Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, suivi en 1966 par L'amour de l'art, Pierre Bourdieu engage une série de travaux portant sur les pratiques culturelles, qui occupent une part essentielle de son travail sociologique dans la décennie suivante et qui débouche sur la publication en 1979 de la Distinction, critique sociale du jugement, qui est son œuvre la plus connue et la plus importante sur le champ sociologique. À l'issue des événements de mai 1968, auxquels Pierre Bourdieu participe en qualité de scientifique, il rompt avec son maître Raymond Aron, penseur libéral, qui désapprouve ce mouvement social. La même année, Pierre Bourdieu publie avec Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron « Le métier de sociologue », un traité dans lequel ils exposent, à partir d'un choix de textes d'auteur, les méthodes de la sociologie. En 1993 est publié « La misère du monde », un ouvrage d'entretien et de témoignages réalisé par des sociologues et dirigé par Bourdieu. Le livre illustre les effets déstructurants des politiques néolibérales et pointe l'attention sous une forme de misère discrète, invisible et quotidienne. L'ouvrage rencontre un important succès. Pierre Bourdieu meurt le 23 janvier 2002, à l'âge de 71 ans d'un cancer généralisé, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, après avoir souffert d'un intense mal de dos d'origine inconnue. Sa mort suscite une importante couverture médiatique qui témoigne de sa reconnaissance internationale. Sa tombe se situe au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, près de celle de Charles-Henri de Rouvroy de Saint-Simon et de Jean-Anselme Brillat-Savarin. Le bal de la Noël se tient dans l'arrière-salle d'un café. Au centre de la piste, brillamment éclairée, une dizaine de couples dansent sur des airs à la mode. Ce sont surtout des étudiants, élèves des cours complémentaires ou des collèges des villes voisines, pour la plupart originaires du bourg. Et aussi quelques militaires, de jeunes citadins ouvriers ou employés, portant blue jean et blouson de cuir noir, nu-tête ou coiffés d'un chapeau tyrolien. Parmi les danseuses, plusieurs jeunes filles venues du fond des hameaux, les plus reculées, que rien ne distingue, ni dans le vêtement, ni dans la tenue, des autres natives de l'esquive, travaillant à Pau, couturières, bonnes ou vendeuses. Des jeunes filles et des fillettes d'une douzaine d'années dansent entre elles, tandis que les jeunes garçons se poursuivent et se bousculent entre les couples. Debout, au bord de la piste, formant une masse sombre, un groupe d'hommes plus âgés, qui regardent sans parler, tous autour de la trentaine. Ils portent le béret, un costume sombre, de coupe démodée. Comme happés par la tentation d'entrer dans la danse, ils avancent, resserrant l'espace laissé aux danseurs. Ils sont là, tous les célibataires. Les hommes de leur âge, qui sont déjà mariés, ne vont plus au bal. Ou seulement lors de la grande fête du village, le comice agricole. Ce jour-là, tout le monde est sur la place de la promenade et tout le monde danse, même les vieux. Les célibataires, eux, ne dansent pas davantage. Ces soirs-là, on les remarque moins. Tout le village est là, hommes et femmes, les uns pour boire un coup avec les amis, les autres pour épier, cancaner et faire des conjectures sur les mariages possibles. Dans les bals comme celui de la Noël ou du premier de l'an, ils n'ont rien à faire. Ce sont des bals faits pour les jeunes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés. Ils n'ont plus l'âge, mais ils sont et se savent immariables. Ce sont des bals où l'on vient pour danser. Or, ils ne danseront pas. De temps en temps, comme pour dissimuler leur gêne, ils échangent quelques plaisanteries ou chahutent un peu. Une marche. Une jeune fille s'avance vers le coin des célibataires et appelle l'un d'eux à danser avec elle. Il résiste, gêné et ravi. Il fait un tour, accentuant à dessein sa maladresse et sa lourdeur, un peu comme font les vieux quand ils dansent le jour du comice, et adresse des clins d'œil à ses copains. La danse finie, il va s'asseoir et ne dansera plus. « Celui-là, me dit-on, c'est le fils d'un gros propriétaire. » La fille qui est venue le chercher est une voisine. Elle lui a fait faire un tour de danse pour lui faire plaisir. Tout rentre dans l'ordre. Ils resteront là, jusqu'à minuit, parlant à peine, dans la lumière et le bruit du bal, le regard sur les filles inaccessibles. Puis ils iront dans la salle de l'auberge et boiront face à face. Ils chanteront à tue-tête de vieux airs béarnais, prolongeant à perte de voix des accords dissonants, cependant qu'à côté l'orchestre joue twist et cha-cha-cha. Et par deux ou par trois, ils s'éloigneront lentement, à la fin de la nuit, vers leur ferme reculée. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.